mayonnaise. Radio Alpha. Bonsoir à tous. Il avait consommé de l'alcool et de la cocaïne 3 jours après la blessure par balle de Kenji Girac. Il semblerait que la lumière soit faite sur le soir des événements. Le chanteur se serait disputé avec sa compagne tôt lundi matin dans sa caravane à Biscarrosse dans les Landes. La jeune femme aurait menacé de le quitter. Il aurait donc simulé un suicide pour éviter qu'elle ne parte. Le volet de l'enquête ouverte pour tentative d'homicide devrait être classé, mais les investigations se poursuivent concernant la provenance de l'arme. Le manager de l'artiste a dit par ailleurs regretter le déballage de la vie privée du chanteur. Les deux juges d'instruction en charge du dossier Jubilar restent saisis de l'affaire. La cour d'appel de Toulouse a rejeté ce jeudi la demande des avocats de Cédric Jubilar qui souhaitaient leur récusation pour leur manque d'impartialité dans ce dossier. Delphine Jubilar a disparu dans le Tarn dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Son époux Cédric est soupçonné de l'avoir tué. Il est en détention provisoire depuis juin 2021. Les États-Unis ont commencé la construction d'une jetée à Gaza. Ce projet est destiné à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien bombardé et assiégé par Israël. Ce port maritime temporaire doit permettre à des navires militaires ou bien civils de déposer leur cargaison. L'aide doit ensuite être apportée par des navires de soutien logistique jusqu'à une jetée sur la côte. Les ONG seront ensuite chargées de redistribuer les denrées alimentaires. La production mondiale de vin a baissé de 10% en 2023 avec 237 millions d'hectolitres produits sur l'année. Ce sont les plus faibles vendanges des 60 dernières années. Une dégringolade consécutive à des conditions environnementales extrêmes. Les vignes ont souffert des sécheresses, des vagues de chaleur, des incendies ou du gel précoce. L'Hexagone reste quand même le premier producteur de vin au monde devant l'Italie et l'Espagne. Et puis un mot de football, l'attaquant de l'OM Faris Moumbagna est écopé d'un match ferme de suspension par la commission de discipline après son carton rouge face à Nice mercredi soir. Il manquera donc la réception de Lens ce week-end.
Tempestade 2.1,
o programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1.
Bonjour et bienvenue sur Tempestade 2.1, c'est votre rendez-vous du samedi après-midi. C'est Léa sur Radio Alpha et je suis ravie d'être à vos côtés pour une nouvelle émission. On est avec vous jusqu'à 16h avec Tony, Julie et Edouard. Salut!
Salut tout le monde.
Bonne tarde.
Salut, salut.
Très contente de vous retrouver en ce samedi. Et à nos côtés pour ces 2 heures d'émission, on sera accompagné d'Annie Cicatelli, journaliste et artiste spécialisée dans la broderie. Bonjour Annie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
C'est un plaisir.
Comment tu te sens? Comment tu vas?
Moi, je vais très bien.
Alors, si tu es avec nous, c'est pour parler bien sûr de ton art, de la broderie, mais aussi de ton expérience au Brésil. Tu as vécu pendant plus de 25 ans là-bas. Já falas português?
Falo português, mas do Brasil, não de Portugal.
Et ça s'entend, on entend le petit accent brésilien. Tu participes aujourd'hui à plusieurs expositions. On va parler de tes créations, de tes œuvres d'art créées grâce au crochet. Et puis on parlera également de ton expérience au Brésil à 15h, ton expérience en tant que française au Brésil, et je sais que tu as des anecdotes à nous raconter. On va commencer, l'équipe et nos chers auditeurs, cette émission en musique. Alors, les Brésiliens, il faut se le dire, ils sont très très forts pour mettre l'ambiance. Annie, est-ce que tu es d'accord?
Tout à fait d'accord, complètement d'accord.
Ils sont très très forts pour mettre l'ambiance, mais ils font aussi de très très bons duos. Et c'est le cas de Luan Santana et du Labi, écoutez.
Vou começar dizendo, você nunca me deu final. E eu nem sei se eu quero ver.
E mesmo que passe o tempo, mesmo que nada esteja igual, nossa história eu não nego, eu não nego. Não sabia, amor, se isso era amor, mas eu sei o que senti, amor.
Tu e eu, tu e eu, tu e eu. É que eu sou, é que eu sou. Inesquecível é o que é. Inesquecível, mesmo que não queira.
Inesquecível é o que é. Inesquecível, mesmo que não queira.
Mesmo que não queira.
Se você vem com alguém, não tem por que eu me preocupar. Sei que não tem. Eu tenho
que
pena te roubar. Que você fez de tudo para me esquecer. Saiu pegando várias, tentando se fazer. Em vez de aceitar, você tenta negar. Por isso sei que não consegue superar.
Isso era amor, mas eu sei o que sentimos. Tu e eu, tu e eu, contra o mundo.
Desde que acabou, provou outro amor. Mas eu sei que ninguém como o Joe. É que eu sou,
é que eu sou.
Inesquecível de Luan Santana et Julia B. Et c'est parti, c'est le moment de l'émission où on compte le plus sur vous. La semaine dernière, le blind test avait un thème, c'était les années 2000-2002. On s'était bien éloigné de l'actualité. Et ce samedi, Edouard, est-ce que tu as prévu un nouveau thème? Parce qu'après les années 2000, les années 2010, où est-ce que tu nous emmènes?
Cette semaine, ça sera un blind test spécial années 80.
Mais alors, on n'était pas nés, hein, t'es au courant?
Oui, mais c'est quand même c'est une époque où on connaît toutes.
Années 80 en France.
Les musiques,
je peux peut-être m'en sortir parce que j'ai vu le film Star 80, donc alors, ça maîtrise un peu.
Il y a France, il y a.
Portugal, je peux m'en sortir.
Et il y aura du brésilien.
Oula, du brésilien, je m'en sors pas.
Mais ça reste des musiques connues quand même.
Est-ce que, Annie, justement, tu fais des blind tests de temps en temps?
Oui, de temps en temps, mais c'est pas mon fort. Hein.
Bienvenue au club.
C'est pas le nôtre non plus.
Parce que moi, c'est la musique plutôt des années 70, quoi.
Ah, t'es 10 ans trop tard.
Brésilienne, bien sûr.
T'es 10 ans trop tard, là.
Oui, parce que là, voilà, de la musique brésilienne, française, mais aussi.
Mais aussi anglais.
En vrai, anglais, je pense que ça peut le faire, parce que en général, la musique anglaise, c'est des tubes très, très, très connus.
C'est,
donc,
c'est mondialement connu, donc vous aurez aucun souci.
Parce que moi, je suis arrivée en France en 87, alors tout ce qui est. Avant 87, français, je ne connais pas. Non, mais c'est vrai en
oui,
plus. Bah, hein.
T'inquiète pas, nous, on était juste pas nés.
Je crois que c'est encore pire.
Ça devrait aller aussi. Hein.
Bon, bah, bon courage à tous.
On rigole beaucoup là. On rigole
bon
beaucoup
courage
trop,
à nos auditeurs.
On rigole. Je propose qu'on commence avec le premier extrait. C'est parti.
Comme un guerrier que l'on blesse, se cache dans son rêve.
Vous avez trouvé?
Je vais tenter un coup de poker, vraiment. Est-ce que c'est Jeanne Masse?
C'est effectivement Jeanne Masse.
Toute première fois?
Exactement.
Voilà.
Oh, allez.
C'est une
mais
musique
comment
plus connue.
Vous connaissez ça?
Ah si, ça je connais pour le coup.
Genre,
si,
mais sentir le refrain, j'ai reconnu, mais je connais pas du tout, quoi.
Bah ouais, écoute.
Enfin...
Mais ce qui est dur avec les années 80, c'est qu'on connaît les musiques, mais les chanteurs, parfois, on...
Ça, au fond de moi, j'étais, s'il te plaît, laisse le refrain.
Pardon, mais elles se ressemblent un peu toutes. Hein. Moi, j'imagine tous des rollers avec des pattes def. Hein,
c'est bah,
tout,
c'est
hein.
Les années 80.
Mais t'as pas besoin, elles sont toutes pareilles.
Voilà. En tout cas, gros classique à l'époque. Hein,
gros, et encore aujourd'hui.
Mais encore aujourd'hui.
Ouais, encore aujourd'hui.
Je dis pas convaincu, mais on enchaîne avec le deuxième extrait. Est-ce que vous avez trouvé l'équipe?
Est-ce que le titre c'est pas I'm so excited?
Ça c'était simple, on l'a entendu dans la musique, mais est-ce que vous avez.
T'avais pas une idée?
Je pensais à Irène Cara, mais je sais
non,
pas.
Non, c'est pas ça.
Non.
C'est que j'ai même pas.
C'est un groupe américain.
Ah, c'est un groupe. C'est pas Abba, si.
Tu vas me dire.
Ah, non, non, ils sont pas américains.
Non, c'est pas Abba. Ils sont suédois.
Ils sont pas américains, Barry.
Mais ils chantent en anglais, hein, soit.
C'est que des femmes.
Ouais, ça on avait entendu.
Et le mot sister dans le
Sister Act.
Moi les tentes, comme la comédie musicale, j'envoie tout.
J'envoie tout. Vas-y Tony.
Comme la comédie musicale, j'envoie tout. Non, je sais pas.
C'est The Pointer Sisters. Ça vous dit absolument rien.
Je préfère Sister Act.
Tout le monde connaît la chanson, mais personne ne connaît ce groupe.
La musique, c'est un classique, c'est ça qui est fou.
Mais tout le monde connaît le refrain.
Mais en fait, tout le monde connaît juste I'm So Excited.
Exactement.
C'est tout. On n'a pas besoin de plus.
Voilà. Très gros classique en tout cas. On enchaîne avec le troisième extrait.
Chorando se foi quem dia só me fez chorar.
Alors Annie, tu avais une petite idée?
Non, je pensais à Laurent Vabras parce que je l'ai connu personnellement.
Oh.
Et malheureusement, ils ont eu un quiproquo avec cette chanson. Une question de droit d'auteur et tout. Donc, elle a fait que cette chanson. Et elle est repartie au Brésil. Elle avait une maison d'hôte à Rio. Et elle a été assassinée dans les années... début des années 2000, je crois. C'était une histoire terrible.
À cause de cette musique?
Non, non. Au Brésil, il y a eu un souci. Et puis, elle a été assassinée pendant un cambriolage.
Oh là là.
Oh la cool.
Et c'est pour ça que je pense toujours à elle quand j'entends cette chanson. Et du coup, Lambada,
trop, ouais.
Lambada, c'est le groupe Kaoma.
Ah,
la chanteuse s'appelle Laura Brás.
C'est pour ça, c'est un groupe en fait.
Kaoma, c'est le groupe. C'est la bonne version.
C'est...
Hein.
Et c'est le groupe Kaoma.
Kaoma.
En tout cas, tout le monde la connaît, celle-là.
Ah, oui.
Moi, j'étais incapable de vous dire ni le titre, ni l'artiste. Heureusement qu'Annie est là pour nous aider.
J'ai déjà entendu au moins une fois.
Ah oui,
même
une fois d'ailleurs.
Ah, oui. C'est vachement bien pour danser. Hein.
Ouais, c'est sûr. Même ça passe dans. Enfin, je suis sûre que c'est dans plein de films, à la télé, c'est partout.
Oui, mais personne ne parle de la chanteuse, c'est ça qui me.
Ben non, on n'était pas au courant.
Bah, ouais, ouais. Là, vous regardez sur internet, vous allez voir, vous cherchez la chanteuse Kaoma, à Volor Vabras, et il y a son histoire. Hein. C'est très dommage, quoi, parce qu'elle a eu un succès phénoménal, mondial, hein, son succès. Et il y a eu vraiment un quiproquo des droits d'auteur et tout. Et puis après, ça s'est terminé comme ça, dramatiquement. Je vous rappelle d'elle parce que j'ai passé un Noël chez elle.
Oh, mais vous étiez proche.
Oui, mais quand elle était. Okay. Après son succès, une fois elle a passé à la radio, on s'est rencontrés et puis j'ai fini avec ma fille. On a passé un Noël ensemble. Et du coup, à chaque fois que je la rencontrais, on se parlait et tout. Et puis à la fin, ben voilà.
Ouais, mais la violence au Brésil,
c'est dramatique. Hein, c'est un gros problème, un gros souci hein, pour les gens qui habitent là-bas. C'est dur. Hein.
Et on va en parler au moment de l'interview, puisque tu as été journaliste au Brésil pendant plusieurs années. On parlera de la difficulté, justement, d'exercer son métier dans ce pays-là.
Je vous propose sur ça qu'on enchaîne sur le quatrième extrait. C'est un énorme carton, vous êtes obligés de connaître. C'est
oula.
Allez, la pression, mais j'aime bien.
La question, c'est qui ne l'a pas?
Oui, depuis plein de gens ici ne l'ont pas.
Non,
il l'a pas, il l'a pas.
Non, il faut être honnête. Non, quand j'ai entendu les premières notes, j'ai tenté de deviner.
Oui, mais...
Bah, mauvaise pioche.
Il veut du sardou, il veut du sardou.
Il n'arrête pas de nous demander le Connemara.
Ouais.
Mais la version longue, attention. Hein.
Non. Et donc, s'il te plaît, ne mouillez pas
la version de 10 minutes pour nos auditeurs, histoire de...
Il n'y aura pas l'heure.
Merci, Edouard, merci.
J'ai une petite anecdote. Est-ce que vous savez combien d'albums il a vendu?
Oh là 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 là. Dans toute sa carrière. Hein.
Toute sa carrière.
Je pense en vrai, je suis joueur, donc je vais continuer. Je vais dire 1 milliard.
Non.
D'albums?
Peut-être pas.
Ouais, on sait jamais.
Peut-être pas. C'est en millions. C'est en centaines de millions.
Moi, j'irais beaucoup.
Oui, bah oui. C'est à peu près 300 millions d'albums.
Ouais, 300 millions, 1 milliard. Est-ce que c'est pas pareil? Est-ce que c'est pas pareil? En vrai de vrai.
Ne fais pas comptable, hein, s'il te plaît. Hein.
C'est pas prévu.
Sur ce classique, on enchaîne avec l'avant-dernier extrait. C'est parti.
Ne la laisse pas tomber.
T'es coquille de merde.
Femme libérée.
C'est pas Cookie Jingler?
C'est bien Cookie Jingler.
On est en direct là?
On est en direct, oui. On est en direct là. Et je pense que nos auditeurs chantent aussi actuellement.
Non, une certaine génération, peut-être pas l'autre.
C'est bien.
Mais je sais pas le nom du chanteur. Par
Cookie Jingler.
Cookie Jingler.
Vous savez comment je
Star 80, le
film. Je connais la chanson, je sais les paroles, mais je sais pas le nom.
Vous savez comment j'ai connu cette musique? C'était en primaire, c'était à cause d'une blague de Toto. C'est ça le pire.
Wow.
Genre vraiment. Blague de Toto, dis donc.
C'est Toto aux toilettes.
Ah. Je suis pas sûr de rouler à la fin.
Voilà.
Okay. Allez, on passe.
On enchaîne.
Une petite anecdote, Cookie Dingler, il a sorti plusieurs sons, mais c'est le seul qui a cartonné. Dernière musique, vous en sortez très bien. On enchaîne, c'est parti.
Subo nesse palco, minha alma cheira talco, como bumbum de bebê. Minha aura clara, só quem é claro.
Ah, Gilberto Gil!
Gilberto Gil!
Comment magnifique chanson! Réponse. J'adore!
Oui,
minha alma cheira talco, feito bumbum de neném. De neném.
Solo. Est-ce que tu as le titre de cette musique?
Subo neste palco, minha alma cheira talco. Non, je me
rappelle. Tu l'as dit, c'est un des mots que tu as dit dans les.
Palco,
palco, c'est palco, ça, exactement.
Ouais. J'adore
bravo,
cette chanson.
Bravo, bravo,
ouais, ouais, mais c'est de mon époque. Hein.
Ouais, les gars, là. Bon,
ouais, mais pour notre défense, elle était née.
Je sais pas ce que tu veux dire par là, mais.
Très bien, on n'était pas nés.
Elle n'est pas recevable, cette.
Le juge Edouard refuse l'excuse. Et voilà, c'est la fin du blind test. On va se retrouver dans quelques instants pour une autre rubrique, l'échange de la semaine. Alors restez bien avec nous sur Radio Alpha.
Quem manda é Deus, a música pedindo pra deixar derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. Lá, 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 fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui.
Merci d'être avec nous sur Radio Alpha, c'est parti pour l'échange de la semaine et aujourd'hui je fais un focus sur le Brésil et ça tombe bien, à nos côtés aujourd'hui Annie Cicatelli qui a été journaliste au Brésil pendant plus de 20 ans. Annie, il y a quelques semaines le Brésil était dans l'actualité, le président français Emmanuel Macron s'est rendu en terre lusophone pour une visite d'État de 3 jours, c'est son premier voyage d'État au Brésil, est-ce que tu as suivi cette rencontre?
Oui, un peu de très loin, parce que bon, ces visites, normalement, on attend la suite, quoi. C'est surtout la suite qui nous intéresse.
Et il y a quelque chose qui t'a marqué dans cette visite, non? Sur les réseaux.
Alors, sur les réseaux, les gens ont fait plein de blagues, genre La La Land, le mariage Lula Macron, c'est le grand amour, on s'aime à tout jamais et tout. Donc, à voir ce qui va se passer, quoi.
Et Emmanuel Macron sur X a confirmé que c'était l'amour fou.
Ah oui, oui, non, filles. Il a confirmé Macron. Hein, il a dit oui, oui, gros mariage, grand amour.
Brigitte.
Pour la vie, Brigitte, salut.
Merci pour tout, mais.
Merci, mais bon, là.
Merci pour mes discours, mais.
L'écologie, la préservation du de l'environnement est beaucoup plus importante.
Voilà, ça c'est un des éléments qui est ressorti pendant cette visite d'État au Brésil. Alors, pour rappel, il y avait eu des tensions à l'époque avec l'ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro, qui avait insulté Emmanuel Macron et son épouse lors d'une crise diplomatique en 2019. Les relations s'étaient donc dégradées depuis cet épisode-là. Alors, je fais un récapitulatif des sujets, des accords, des désaccords aussi évoqués entre les deux présidents lors de cette visite. Alors, lors de la première journée, Emmanuel Macron et Lula da Silva ont annoncé un programme vert pour la protection de la forêt amazonienne au Brésil et en Guyane. Donc d'ici 2028, la France et le Brésil vont investir conjointement 1 milliard d'euros pour l'Amazonie. Est-ce que, Annie, tu crois qu'un jour on arrivera réellement à protéger l'Amazonie, cette forêt si importante pour le monde ?
Alors le problème, c'est que bon, la forêt, elle reprend toujours sa place. Hein. Je me rappelle quand ils avaient construit la transamazonienne, c'était une grande route qui traversait toute la forêt. Quand ils arrivaient au bout, la forêt avait déjà recommencé à prendre sa place. C'est-à-dire que si on laisse la forêt en paix, elle va se débrouiller toute seule. Ça, on a vu très bien ça pendant le Covid. Quand on avait laissé même les eaux, ils étaient en paix, tranquilles, il n'y avait personne, et ben, il y a eu plein de reproductions, il y a eu plein de bébés et tout. C'est-à-dire, il faut que l'homme arrête de se mêler de choses qui ne le regardent pas. Laissons la forêt tranquille, en paix, arrêtons de bouger, de couper. Le problème au Brésil, c'est que il y a beaucoup d'éleveurs de bétail qui ont besoin de terre pour leurs animaux, et du coup, ils coupent des arbres et puis ils s'installent et puis voilà.
En tout cas, sur ce sujet de l'environnement, les deux présidents semblent être sur la même longueur d'onde et souhaitent agir pour protéger l'environnement. Et ce qui est ressorti de cette rencontre, lors de cette première visite, c'est la place des peuples autochtones. Emmanuel Macron a d'ailleurs décoré de la Légion d'honneur le cacique Raoni, qui était venu en France il y a quelques mois. C'est une figure planétaire de la défense de l'Amazonie et de la culture des peuples autochtones. On parle de peuples autochtones dans l'actualité depuis quelques temps, depuis quelques mois déjà, de la place de ces peuples-là. Est-ce que tu as pu en rencontrer lorsque tu étais au Brésil?
Oui, alors j'en ai rencontré parce que dans l'état où j'habitais, c'est l'Espírito Santo, il y avait encore quelques tribus, mais très malmenées, quoi. À mon époque, c'était dans les années 80, on n'avait pas cette notion de préservation même de l'être humain, quoi, parce que ce sont des êtres humains qu'il faut respecter. J'espère que des choses vont se passer, parce qu'avec Bolsonaro, il y a eu beaucoup de soucis. Il a beaucoup marche arrière sur plusieurs lois de préservation de ces tribus.
Ça a été très compliqué.
Très compliqué. L'année prochaine, c'est l'année France-Brésil, encore une fois. L'année prochaine, c'est l'année en France, l'année mondiale des océans, l'année des océans. Donc, j'espère qu'au niveau de préservation, d'écologie, d'environnement, des choses vont se passer, j'espère, mais bon.
Et puisque tu parles justement de l'océan, cette visite, elle a également été marquée par un partenariat stratégique entre la France et le Brésil sur les sous-marins. Emmanuel Macron s'est rendu sur le chantier naval d'Itaguaï pour l'inauguration d'un sous-marin de conception française. Il faut remonter à 2008, lorsque Nicolas Sarkozy et Lula da Silva ont signé un accord de coopération militaire qui a permis la construction au Brésil de 4 sous-marins à propulsion classique. C'est un accord à 6,7 milliards d'euros pour développer justement les capacités sous-marines du Brésil et son industrie. Et puisque je vous parle d'investissement et d'industrie, saviez-vous que Paris est le 4e investisseur au Brésil, avec plus de 40 milliards de stocks d'investissement dans le pays?
Wow.
Énorme.
Ah, ça fait beaucoup.
Et vous savez que le Brésil est très, très francophile.
Oui.
C'est plus facile, quand on est au Brésil, c'est plus facile de venir en France, au niveau voyage et tout, découverte d'une autre culture, que d'aller en Argentine, par exemple, qui est un pays voisin. Vous voyez, même si la distance n'est pas la même, mais au niveau de l'amour, de la volonté de découvrir une autre culture, la France est beaucoup plus proche que les pays d'Amérique latine.
On s'entend mieux sur ces questions-là.
Quand on se balade à Paris, on voit qu'il y a beaucoup de touristes brésiliens. Hein.
C'est vrai, ouais. Même installés actuellement. Ouais. À Paris. Et on parlait justement des accords. Je vais vous parler maintenant des désaccords entre les deux présidents, Lula da Silva et Emmanuel Macron. Je poursuis le décryptage dans un instant, juste après Lose Control de Teddy Swims.
Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in. Devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Feel like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah.
De la semaine, il y a quelques semaines, Emmanuel Macron s'est rendu au Brésil où il a rencontré le président Lula. Je vous parlais il y a un moment des accords entre les deux présidents. Je vais maintenant vous parler des désaccords et des sujets qui les opposent. Évidemment, il y a le sujet de la guerre en Ukraine. La France et l'Occident soutiennent Kiev depuis le début de l'offensive russe, tandis que Lula s'est montré moins enthousiaste à soutenir les Ukrainiens et il met en avant son côté pacifiste. Le président brésilien refuse l'envoi d'une aide en Ukraine, qu'elle soit militaire ou financière. Et à contrario, la France et l'Ukraine ont signé en février 2024 un accord de coopération en matière de sécurité. Et il y a un autre désaccord aussi sur le devant de la scène, celui du Mercosur. Un sujet qui d'ailleurs n'a pas été évoqué officiellement lors de cette visite. Alors pour rappel, le Mercosur, c'est un marché commun et une alliance économique composée de 5 pays d'Amérique du Sud. Le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie. Et à 5, ils établissent des points d'entente sur leur politique économique agricole et industrielle. Et en gros, il s'agit d'une zone de libre-échange entre ces pays afin d'abolir les droits de douane et de ne pas être limité par les frontières. Donc c'est un marché porteur qui se classe à la 4e place mondiale, un marché majoritairement mené par le Brésil qui produit chaque année les 3/4 de la richesse de cet ensemble. Alors pour rappel, le Brésil est le premier exportateur mondial de...
Cacao, non, je sais pas.
Est-ce que vous avez une idée? Alors, le Brésil est le premier exportateur mondial de sucre, de soja et de café.
Ah, voilà.
Non, des trois. Dit cacao,
ah oui, j'ai dit cacao.
T'as pas dit café.
Je voulais dire café, je voulais dire café.
Presque, presque.
Mais tu vois, moi j'ai le sucre, toi t'as le café.
Voilà.
On se complète bien.
Vous complétez. Et pour vous donner un exemple, en 2022, la France a importé 3,3 millions de tonnes de soja, dont environ les 2/3 du Brésil, hein, ce qui est énorme.
Ah oui, quand même.
C'est énorme. Et attendez, la suite. Le Brésil aussi est leader sur d'autres secteurs. C'est le premier fournisseur mondial de viande bovine, de poulet et de maïs.
Ah, maïs, j'adore.
Est-ce que vous le saviez?
Je ne savais pas.
Du coup, ça veut dire le maïs que tu prends à KFC vient du Brésil.
Alors moi, je ne mange pas dans les fast-foods, mais...
C'est possible.
Et moi, j'ai fait attention à ma ligne.
C'est possible, mais c'est du maïs. C'est à KFC, c'est du maïs, tu vois.
Oui.
Bon, en tout cas, on parle de production, on parle d'industrie, mais cependant, le Brésil a massivement misé sur les cultures transgénétiques et les pesticides chimiques. Ah. Et c'est aujourd'hui le premier consommateur mondial de pesticides aussi.
Aïe.
Donc, évidemment,
on va arrêter le maïs, du coup.
Évidemment, ça pose question. Et donc, pour revenir sur la question du Mercosur, Lula da Silva espère un jour voir un accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Un accord qui entend donc supprimer la majorité des droits de douane entre les deux zones. Cependant, ces pourparlers ont été suspendus il y a quelques mois, en ce début d'année, à la demande de la France.
Ah, parce que les agriculteurs n'étaient pas contents. Hein.
Exactement, Julie.
A raison.
Les agriculteurs n'étaient pas contents et pendant cette crise agricole, tout à fait, Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont annoncé s'opposer à tout accord de libre-échange avec le Mercosur, évidemment, et tu l'as dit Julie, c'est un traité qui inquiète les agriculteurs français et européens qui crée une concurrence déloyale face au Brésil. Donc voilà, cette visite officielle a relancé les discussions entre les deux pays. La France a fait le choix de développer des liens forts avec la première puissance sud-américaine, le Brésil. Et les deux présidents se retrouveront à Rio en novembre pour le G20 et lors de la COP30 l'an prochain au Brésil, à Belém. Voilà, c'était tout pour l'échange de la semaine. On va se retrouver dans quelques instants, cette fois-ci pour Ouchkademlouch de Julie. A tout de suite, toujours sur Radio Alpha.
Se revoir con tes amis, siempre regarder ailleurs pour que j'oublie, jamais.
Riabbracciarti sarà come bere miele. Volerai fino in Qatar, sfiorando il mare per trovare te. Stavo sognando di stare altrove, nella mia amante la dirico, stringendomi a te. Mi piaceva quando avevo sulla tua collana, stare con te sul jet ski era meglio del nirvana. Tu ci pensi mai, senza me come stai? Se muori di sete fai di me la tua fontana.
Se vuoi con me, sempre regalo. J'aimais quand sur mes toits la ronde de ton corps me reste. Et si l'on essayait, est-ce que tu m'en voudrais? Comment te dire adieu quand nos deux cœurs restent rivés?
Te revoir bien comme des amis, j'aimerais
regarder ailleurs pour que j'oublie
jamais.
Finché non ci prende.
Se vuoi con me, sempre
regarde ai dopo che giubi.
Ciao
anche se le mani pensami,
sempre
finché non ci prende la police.
Ciao me.
Ti piaceva quando avevo sulla tua collana.
C'è mai consumi tolla un detto con questo.
Anche se le mani pensami,
sempre
finché non.
are outside the line. Yeah, yeah. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Oh. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate.
De Os Cadernos de Julie, c'est la rubrique en portugais de cette émission et on va parler de plusieurs livres en lien avec le 25 avril, Julie.
Et si, porque a semana passada foi o primeiro sábado deste mês de abril, este mês aniversário da Revolução dos Cravos. Conheces um bocadinho a Revolução?
Sim, conheço.
Então bem, então bem. Vamos ver se conheces estes livros. Agora que relembramos as bases históricas deste evento, quero fazer-lhes uma pequena lista de livros sobre o assunto. E não se preocupem, são livros pequenos e acessíveis a todos. Mas são todos em francês, ou seja, vocês podem comprá-los e dar-os aos seus amigos. Mas vá, pequena pergunta para vocês. Têm uma ideia dos livros, dos autores ou historiadores dos quais vou falar?
Yves Léonard, com certeza. Leonard, já falaste muitas vezes dele aqui no programa.
Pois claro. Há um que já recebemos há pouco tempo.
Arthur Pereira?
Não,
Vitor Pereira.
Vitor Pereira, exatamente.
Se calhar também o Mário Gomes?
Não, não, não. Já tens dois sobre três.
O outro
eu também não conhecia, conheci há pouco tempo. Então, primeiro, Yves Léonard. Tenho dois livros dele a apresentar. Já falei de um o ano passado. É Sous les œillets, la Révolution, na editora Chandaigne. É um livro muito pequeno, que saiu o ano passado, como disse, e que explica mesmo o assunto da Revolução. Ou seja, o que se passou antes, o que se passou durante a Revolução e um bocadito depois. Sabem tudo. E também têm fotos, mapas, etc., para mesmo compreender o que se passou. Um outro livro que saiu há pouco tempo, que saiu este ano, com o Yves Léonard, é Lumière d'Avril, também na editora Chandaigne. É um livro pequeno e o texto do Yves Léonard não é a maior parte do assunto. A maior parte são fotos de Alessio de Andrade, um brasileiro que estava presente, acho que foi no verão, depois da Revolução, em 74. E as fotos são incríveis. Há preto e branco e cor, mas sobretudo preto e branco, e são fotos que nunca tinham saído antes. Agora já querem comprar o livro, não?
Já à vontade.
Ani, já sabes o que fazer depois do programa. E Vítor Pereira agora. Vítor Pereira, já recebemos. Lembram-se do título do livro ou não? Posso pedir? Léa?
C'est le peuple qui commande.
Exatamente.
E há outra coisa por trás, não?
La Révolution des œillets, 1974-1976. É um livro que trata mais a editora é Du Détour. É importante dizer. É um livro que trata mais da Revolução e do depois da Revolução. Porque sabem, ou não sabem, se calhar, que houve... algumas pessoas dizem que a Revolução durou 2 anos. Porquê? Porque durante 2 anos não estava tudo muito bem acabado. Ou seja, o país passou de fascismo à esquerda, mas esquerda quase comunismo. E foi um pouco uma experimentação para toda a Europa. Toda a Europa queria saber o que é que se ia acontecer neste país que viveu quase 40 anos, mais de 40 anos, em ditadura fascista. E eu acho que o Vítor Pereira explica isso tudo muito bem. E, aliás, vocês sabem que eu gosto de passar áudios no programa. Então, eu pedi ao Vítor Pereira nos explicar porque é que era tão importante o 25 de Abril para ele e também ele tem uma pequena surpresa para vocês.
Ne pas pouvoir parler librement, ne pas pouvoir s'embrasser librement dans la rue, ne pas pouvoir contester, ne pas pouvoir faire grève, ne pas pouvoir manifester, avoir peur d'être arrêté et torturé, devoir faire un service militaire qui pouvait durer jusqu'à 4 ans et devoir se battre en Afrique ou risquer de mourir ou de tuer. Tout ça, c'est ce que enduraient les Portugais avant le 25 avril 1974. Des conditions qu'on a du mal à imaginer dans un pays occidental, d'absence de liberté, de peur constante dans sa vie. Et donc le 25 avril 1974, quand des militaires font un coup d'État pour mettre fin à la dictature, ils mettent non seulement fin à un régime autoritaire, mais aussi à un empire colonial qui reposait sur la violence, de connaître un développement économique et de rentrer un peu plus tard dans l'Union européenne. Donc le 25 avril, c'est une date très importante pour tout cela. Et c'est ce que j'explique un peu dans mon livre, que vous pouvez gagner grâce à l'émission. Merci beaucoup.
Muito obrigada, Vitor. E viram, uma pequena surpresa para vocês, vão poder ganhar um exemplar do livro C'est le peuple qui commande, La Révolution des œillets, 1974-1976, desde esta segunda-feira, não é, Lia?
Isso mesmo.
No Instagram e Facebook, já sabem. Vão poder, então, ler este livro incrível. Mas outro livro muito importante, que ainda não saiu, mas que vai sair dia 19 de abril, é Découvrir la Révolution des œillets, de Hugo Paeta, nas edições Social. É um livro muito pequeno também, 200 páginas, só 10 euros. É verdade que não disse o preço dos outros, mas podem encontrar. Este ainda não saiu, por isso é importante fazer a promoção. Quem é Hugo Paeta? Eu também não conhecia. É a pessoa que eu descobri nesta lista. É um sociólogo, ou seja, os outros são historiadores. Ele é sociólogo, é mestre de conferências na Universidade de Lille, no norte da França. E é co-diretor da revista Contretemps, uma revista de sociologia. Já perceberam? Então, este livro tem também este aspecto mais de sociologia, enquanto os outros é mais história, história factual. É um livro, então, pequeno, que permite descobrir e compreender de maneira fácil, como ele chama, a última revolução social do continente europeu. Achei a fórmula interessante, não acham? É verdade que é a última revolução que conheceu o continente europeu, porque mesmo se a ditadura espanhola acabou depois, não acabou com uma revolução. Já conhecias a história da Revolução, Annie, bocadito?
É, a gente estuda no Brasil, né, essa Revolução, porque foi uma coisa impressionante, né? Foi uma coisa assim, uma Revolução sem tiro.
Pois.
Não é? Sem...
Um bocadito, mas quase sem, sim.
É, é.
Foi qualquer coisa incrível.
D'où le nom? Revolução dos Escravos, Revolução des Œillets.
Muito poético.
Né? Muito poético.
Eu gosto muito. É. Mas pronto, já sabes, tens que comprar estes livros todos.
Et rendez-vous lundi donc pour tenter de gagner un exemplaire du livre de Victor Pereira. Alors rendez-vous sur Instagram et Facebook ce lundi pour participer. Vous allez dans les commentaires, Vous mentionnez la personne avec qui vous souhaitez justement partager ce livre, le lire, et puis juste liker le post, et voilà, vous êtes enregistré pour le tirage au sort. Et puis le tirage au sort aura lieu dans 2 semaines. Je sens qu'Annie va participer.
Ah, bien sûr.
Elle va participer.
On compte sur vous.
Et voilà, c'est la fin de Ouchka Danouche dès Julie. Je vous retrouve dans quelques instants, et bientôt 15h, hein, pour l'interview avec Annie Cicatelli. On va parler de son parcours, de son expérience au Brésil, mais aussi de la broderie et de ses expositions. A tout de suite.
Desses tudo, nem quase tudo. Eu nunca reclamei, fiz de ti dono do meu futuro. Nunca quis um restaurante caro, e se quiser sou eu que pago. Eu não fiz de ti nenhum culpado, mas se era para te ter avisado, queria que pegasses no carro, batesses à porta e implorasses. Juro, eu só queria que chorasses e me contasses o que é que viste em mim. Queria que pegasses no carro, batesses à porta e implorasses. Juro, eu só queria que chorasses e me contasses o que é que viste em mim.
Quando te escutei que só por te ter eu era um sortudo, disseste tudo. Eu nunca fui ninguém, sou gota d'água no teu sobretudo. Ah, e se não dá então há que assumir, já não dá não. Eu já não vou remar, eu já não vou guiar contra a mão. Se aquela que estava cá uns tempos para mim já não tá não. Se aquela que estava cá uns tempos para mim já não tá não. Se não tens a noção, por ti eu circulava às 8 nem se 19. Eu subia a montanha mais alta só para sentir frio. Eu mergulhava à noite no guincho mesmo quando chove. Eu entrava no carro, mas querida não tens a noção, que por ti eu circulava às 8 nem se 19. Eu subia a montanha mais alta só para sentir frio. Eu mergulhava à noite no guincho mesmo quando chove. Eu entrava.
Queria que pegasses no carro, batesses à porta e implorasses. Juro, eu só queria que chorasses e me contasses o que é que viste em mim. Queria que pegasses no carro, batesses à porta e implorasses. Juro, eu só queria que chorasses e me contasses o que é que viste em mim.
Uau.
Nunca quis um restaurante caro, e se quiser sou eu que pago. Eu não fiz de ti nenhum culpado, mas se era para te ter avisado.
Rádio Alfa.
Bonsoir à tous. Le gouvernement envisage de tester dès l'an prochain 4 ou 5 projets de stockage de CO2 industriel dans d'anciens gisements pétroliers. Une annonce du ministère de l'Industrie. Le potentiel sur les concessions existantes d'hydrocarbures au niveau national est estimé à 800 millions de tonnes de CO2. Cela permettrait donc de couvrir 50 ans des besoins de stockage de CO2 de l'industrie française. Le captage et le stockage de carbone est l'une des solutions vues comme nécessaires pour contenir le réchauffement de la planète. Joe Biden pourrait être reçu à l'Élysée dans les prochaines semaines. Selon nos confrères du Parisien, la visite du président américain devrait se dérouler du 6 au 8 juin prochain. Elle coïnciderait donc avec les célébrations des 80 ans du débarquement en Normandie. Une cérémonie est d'ailleurs prévue le 6 juin sur les plages d'Omaha Beach. Elle devrait réunir les plus grands chefs d'État au monde, sauf le président russe Vladimir Poutine. Le Moulin Rouge devrait rapidement retrouver ses ailes. Les pales du célèbre cabaret parisien du 18e arrondissement ont chuté au cours de la nuit dernière. La devanture a elle aussi été endommagée par cette chute. Les lettres M, O et U ont été arrachées et se sont retrouvées au sol. Plus aucun risque d'effondrement n'est à signaler. La direction du Moulin Rouge exclut tout acte malveillant. L'aménagement des quais de Seine pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques du 26 juillet débutera dès le 17 juin. L'annonce a été faite ce jeudi par le préfet de police et la maire de la capitale. Un périmètre d'interdiction de circulation motorisée soumis à dérogation sera donc mis en place à partir du 18 juillet, soit 8 jours avant la cérémonie qui devrait réunir plus de 300 000 personnes. Et puis la chanteuse Clara Luciani est devenue ambassadrice de l'UNICEF en France et pour sa première mission, elle s'est rendue à Cotonou et à Boïcon au Bénin. L'UNICEF a trois objectifs. L'accès équitable à des services éducatifs de qualité, l'accès au système de soins, ainsi que la garantie d'un accès aux services de protection de l'enfance. Très bonne soirée à tous.
C'est parti pour la deuxième heure de Thermstadt 2.1. J'espère que vous allez bien ce week-end et que vous êtes en forme. En tout cas, vous êtes à l'heure pour l'interview. C'est maintenant et ce samedi, c'est Annie Cicatilli, journaliste et artiste spécialisée dans la broderie, qui est avec nous. Annie, tu as vécu plus de 25 ans au Brésil. Plus de 25 ans, c'est un bon bout de temps d'une vie. Pour rappel, tu es française, tu es née en région parisienne. Comment tu t'es retrouvée au Brésil ?
Alors, mon père est menuisier, il était passionné de bois et un jour il a décidé, bon ça a été une réflexion en famille et puis il a décidé de partir en Amérique du Sud. Alors au départ c'était en Argentine, mais le bateau qu'on avait pris s'arrêtait à São Paulo et donc on est resté au Brésil. On a vécu quelques temps à São Paulo et puis après on est parti dans l'état d'Espírito Santo, à Vitória, qui a une île au bord de l'Atlantique. Et on avait, moi, j'ai vécu là-bas pendant 25 ans.
Et vous avez réussi à vous intégrer facilement au Brésil en tant que Français, même pour la langue, ça devait être compliqué.
Au début, c'était compliqué, hein, parce que déjà, on ne parlait pas le portugais. On est arrivé, on ne parlait pas du tout. Et puis, à l'époque, au Brésil, dans les années 60, c'était quelque chose, hein. Les femmes ne portaient pas de pantalons, déjà, dans la rue. Et puis, il y avait plein de fruits exotiques qu'on ne connaissait pas.
Qu'est-ce portaient les femmes
dans la rue ? Des robes, hein. Elles ne portaient pas de pantalons. Hein. Je me rappelle ma mère qui portait un pantalon.
Il fallait couvrir les chevilles aussi, voilà.
C'était pas ça, mais les femmes ne portaient pas. Ma mère, elle raconte toujours que les gens dans la rue étaient presque choquée de l'avoir en pantalon.
C'était mal vu.
Ah oui. Bah, en France, il y avait une loi qui a été...
Ça l'était aussi.
Oui, bah oui, qui était...
Voilà. Il y a une loi pour autoriser le pantalon.
Voilà.
Oui. C'est dingue.
Et il y avait les fruits exotiques aussi, le maman, la papaye.
Oui.
Hein, les gens, ils disent que ça sentait mauvais. Et puis c'est vrai qu'après qu'on s'habitue, c'est bon. Et puis la banane à terre, la banane plantain.
Oui.
Qu'on connaît maintenant en France, mais qu'avant on connaissait pas. Il y avait plein de choses comme ça différentes. Hein. Le Brésil des années 60, c'était pas le Brésil d'aujourd'hui.
Et hein. Vous avez été bien reçu au Brésil.
Sans problème, hein, parce que à cette époque, il y avait un grand soutien du gouvernement envers l'immigration, ce qu'il n'a pas aujourd'hui. Mais à l'époque, oui, les étrangers étaient bien reçus, surtout quand ils amenaient des capitaux, quoi, quand ils venaient pour investir, quoi. Donc,
parce que c'était compliqué économiquement là-bas.
Oui, dans les années 60, oui, hein, d'où la révolution de 64.
La vie était dure, mais c'est une réalité que peu connaissaient. Tu me parlais justement de cette colonie japonaise qui était venue s'installer en Amazonie.
Ah oui, ça c'était en Amazonie. Hein, en Amazonie, dans les années 30, il y a eu une grosse famine au Japon. Et le gouvernement japonais avait acheté au gouvernement brésilien des terres en Amazonie pour envoyer ses habitants qui, au Japon, mouraient de faim. Donc, au Brésil, en Amazonie, il y a eu plusieurs villages qui ont été créés avec des Japonais. Donc, quand on arrive là-bas, tout est en japonais. Wow. Le supermarché, il y a plein de produits japonais. Le cimetière, il y a des produits japonais. Il y a des temples bouddhistes. Il y a à l'école, il y a la gymnastique avant les cours. Les enfants apprennent japonais. Moi, j'ai des neveux et nièces qui ont appris le japonais en Amazonie, quoi. C'est des trucs de fou. Et donc, l'immigration à une époque était très très bien vue.
Et c'est au Brésil que tu es devenue journaliste?
Voilà, j'ai fait mes études au Brésil. J'ai fait toutes mes études au Brésil. Une grosse partie de ma vie au Brésil. Le tout début de ma carrière au Brésil. J'ai fait mes études au Brésil. Je me suis mariée au Brésil. J'ai eu un enfant au Brésil. Tout au Brésil. Et après, j'ai décidé de revenir en France.
Le début de ta vie était au Brésil. Voilà. Tu es tombée un petit peu amoureuse du Brésil aussi, non? Parce que pour y rester autant de temps...
On s'habitue à vivre dans un pays où la famille est installée, quoi. Je pense que l'immigration portugaise en France, c'est la même chose, hein. Une fois que les parents arrivent, on s'installe, on apprend la langue, on a des copains, des copines.
On est bien intégrés.
On sort en discothèque. Et puis voilà, quoi. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le pays de nos parents n'est jamais notre pays. Il faut faire très attention parce que moi j'entends des fois des immigrés qui disent oui, surtout les pays du Maghreb, oui parce que et tout, mais c'est la vision de nos parents. La vision de mes parents par rapport à la France, c'est pas du tout ce que j'ai trouvé quand je suis arrivée en 1987, quand je suis arrivée en France.
C'est pas la même réalité.
C'est pas du tout. Moi je me suis dit, mais il est où le pays de mes parents? Il est plus là, quoi. Du coup, parce que ils avaient une autre idée. Et c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que l'immigration, elle est vachement intéressante et tout. Et c'est une richesse. Moi, je trouve que c'est une richesse. Moi, j'étais immigrée deux fois. Une fois au Brésil, une fois en France. En France, quand je suis arrivée en 87, je parlais pas le français. Je parlais que portugais. Et une fois, à la mairie d'Argenteuil, on m'a dit « Mais pourquoi vous ne retournez pas dans votre pays ?» Je dis « Mais madame, mais je suis dans mon pays !» C'est pas parce que je parle mal avec un accent que je ne suis pas dans mon pays.
Catégorisée directement.
Directement, immigrée, rentre chez toi.
C'est violent quand même. Hein.
C'est très violent. Non, mais c'est pour ça que je dis le pays de nos parents n'est pas notre pays. Il faut faire très attention à ça.
Parce que la si vision... tu es née en France, tu étais vue comme étrangère.
Voilà.
Et puis en plus, c'était à Argenteuil quand même.
Et Argenteuil, où je suis née, quoi. C'est-à-dire que quand je suis revenue, je dis, je vais revenir vers mes racines. Il y a toujours une histoire de racines et tout. On veut voir où on est né et tout. Et puis on est vachement un peu déçus, quoi. Parce que nos parents nous ont passé une idée d'une chose qui n'existe plus. Parce qu'entre 60 et 87, il y a 20 ans quand même d'écart.
Bien sûr.
Donc, il s'est passé plein de choses, quoi.
Et avant de parler de cette arrivée en France pour retourner au Brésil, pour quel média travaillais-tu?
Alors, j'ai travaillé pendant longtemps pour une radio et pendant longtemps aussi pour la presse écrite. Parce qu'au Brésil, la loi stipule qu'un journaliste ne peut travailler que 5 heures par jour.
Oh!
À l'époque.
C'est beaucoup, mais écoutez, c'est pas mal, 5 heures par jour.
Parce que c'est un métier qui épuise intellectuellement et tout.
Je confirme.
Et puis, il faut faire des recherches, il faut faire plein de trucs. Il faut lire beaucoup quand on est journaliste, en principe. Donc, les gens, ils travaillaient toujours, ils avaient deux boulots, quoi. Un boulot le matin et un boulot l'après-midi, c'est ce qui était mon cas.
T'avais deux boulots.
Voilà. Je travaillais le matin pour une radio et l'après-midi, je travaillais pour la presse écrite.
Donc 10 heures par jour.
10 heures par jour, voilà. Et des fois, samedi, dimanche aussi, et les jours fériés, il n'y avait pas de jours fériés, quoi.
C'est le métier de journaliste. Et en 1986, tu as remporté le prix ESSO, le prix le plus important au journalisme au Brésil. Grâce à quel sujet tu as remporté cette distinction?
Alors, c'était un truc impressionnant parce que j'avais fait une série de reportages sur la pollution.